c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, nous sommes à Montpellier, dans le sud de la France, à l'occasion du 4e congrès mondial d'agroforesterie. Plus de 1200 chercheurs, agriculteurs, scientifiques et décideurs politiques sont venus d'une centaine de pays, dont 23 pays africains. Cela prouve que cette technique agricole qui consiste à planter des arbres au milieu des champs pour améliorer la qualité des sols, limiter leur érosion et augmenter les rendements mobilise. Nous avons installé notre studio au Corum, le Palais des congrès de Montpellier, et je vous présente tout de suite nos invités.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Christian Duprat.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INRA et président du comité scientifique de ce congrès, un congrès qui a lieu tous les 5 ans. Alors quelles sont les spécificités de celui-ci après les États-Unis, le Kenya et l'Inde? C'est le premier congrès d'agroforesterie à se dérouler en Europe.
C'est le premier congrès en Europe et il a une caractéristique qui est un peu nouvelle. C'est que cette année, il y a autant de chercheurs qui s'intéressent à l'agroforesterie pour les pays tempérés que pour les pays tropicaux. On a une montée en puissance des recherches en agroforesterie pour nos régions tempérées, que ce soit en Amérique du Nord, en Asie centrale, en Chine, en Europe bien sûr, ou en Australie, ou en Amérique du Sud. Et ça c'est nouveau parce que longtemps l'agroforesterie a été considérée comme une pratique un petit peu du passé, qui était très employée dans les pays tropicaux, et aujourd'hui elle est reconnue aussi chez nous.
Alors, évaluer la contribution de l'agroforesterie à la transition agroécologique de l'agriculture au niveau mondial, c'est l'ambition de ce congrès. C'est ce que nous allons faire aussi dans cette émission. Mais je vous propose tout d'abord de nous rendre sur le terrain, les pieds dans les champs, à un endroit que vous connaissez bien, Christian Duprat. C'est à une quinzaine de kilomètres d'ici, au domaine de Restinclière, qui est le plus vaste site expérimental d'agroforesterie en Europe. Un laboratoire de 45 hectares. Christian Gary, directeur de recherche à l'INRA, nous sert de guide.
Il y a une variété de formes d'agroforesterie, mais celle que nous voyons ici au domaine de Restinclière consiste à planter des arbres forestiers dans des parcelles agricoles et donc associer des cultures annuelles avec des rangées d'arbres forestiers.
Alors c'est ce qu'on voit ici autour de nous. Là, on est au milieu de champs de pois au milieu desquels sont plantées des rangées de noyers.
Voilà, donc tous les 13 mètres, nous avons des rangées de noyers à bois. Et la culture annuelle cette année est une culture de pois qui rentre dans une rotation. L'an dernier, il y avait une céréale.
Qu'est-ce qui est intéressant ici? Pourquoi ces deux espèces sont mises ensemble?
Eh bien, l'arbre apporte différents services à l'agriculteur, mais aussi à la société en général. Ce qui a pu être démontré ici, c'est que du point de vue de l'agriculteur, la combinaison des deux, donc de l'arbre et de la culture, est globalement bénéfique. Mais les arbres remplissent d'autres services. Par exemple, les systèmes racinaires des arbres qui sont plus profonds que ceux de la culture interceptent les nitrates qui seraient perdus par la culture en quelque sorte. Donc c'est une espèce de filet qui récupère les éléments minéraux qui seraient en excédent dans la culture.
C'est bon aussi pour la biodiversité?
Voilà. Quand on voit cette parcelle, on a l'impression qu'il y a simplement deux espèces, donc du pois et des noyers. Mais vous voyez que sous les rangées de noyers, il y a toute une végétation spontanée, une végétation herbacée qui est très diverse. Et justement, mes collègues l'ont caractérisé récemment et montrent qu'il y a une très grande biodiversité dans ces allées enherbées, ce qui fait que la biodiversité, grâce à ces allées d'arbres, pénètre dans les parcelles. Et ce qu'ils ont montré également, c'est que cette biodiversité végétale héberge une plus grande diversité d'insectes, de ravageurs des cultures, d'auxiliaires, dont on pense qu'elle est bénéfique également pour les cultures.
Christian Gary, là nous sommes arrivés sur une nouvelle parcelle où il y a des vignes.
Voilà, donc c'est un des rares exemples, je pense, de vignes agroforestières, donc de vignes qui sont associées à des arbres, ici des pins. Et donc nous voyons une alternance de 4 rangs de vignes et d'un rang de pins.
Quel est l'intérêt pour la vigne et pour les pins?
Je pense que le vigneron qui exploite la parcelle est plus préoccupé par l'intérêt de la vigne que celui des pins. Pour la vigne, ce qu'on en attend, c'est une modération des extrêmes climatiques, soit les températures maximales le jour ou les températures minimales la nuit.
Et au niveau des sols, de la biodiversité?
Alors au niveau des sols, le prix à payer malgré tout, c'est que les arbres procurent un ombrage et donc réduisent le rayonnement auquel la vigne a accès, donc le rayonnement qui permet la photosynthèse et la production de biomasse, et les arbres dans le sous-sol prélèvent de l'eau et de l'azote qui peuvent éventuellement manquer à la vigne. La question est de savoir si cet inconvénient, cette légère perte de rendement, n'est pas compensée par un gain en termes qualitatifs au niveau de la qualité des raisins. Les raisins sont moins exposés au rayonnement direct et donc il y a certains défauts de qualité qui peuvent être évités de cette façon.
Et est-ce que depuis qu'il y a ces expériences menées ici, il y a des viticulteurs qui se sont mis à planter des arbres dans leurs vignes ?
Il y a un mouvement, c'est vrai, on a vu ces dernières années dans le sud-ouest en particulier et aussi en Languedoc, un certain nombre de viticulteurs qui ont planté des arbres. Il y a des agriculteurs innovants qui essayent des choses et je voudrais vraiment dire que l'expérimentation, l'innovation, elle se fait beaucoup chez les agriculteurs, un peu chez les chercheurs aussi, c'est ce qu'on essaye de faire ici. Mais vous voyez qu'ici, on a une situation particulière qu'on étudie à fond. Mais les agriculteurs, finalement, font de l'expérimentation dans une grande diversité de situations et c'est finalement nécessaire aussi pour que tout le monde progresse.
Christian Dupras, Christian Gary nous a présenté quelques associations possibles en agroforesterie, mais il y en a des milliers.
Tout à fait, on peut combiner énormément de choses et on a de beaux exemples. Moi, je me rappelle une de nos premières expérimentations où on avait mis des peupliers et puis entre les peupliers, il y avait des asperges. Et puis, on avait mis un témoin avec des peupliers. Il n'y avait pas de culture pour savoir comment l'arbre pousse sans les cultures. Et puis, un jour, j'arrive dans la parcelle et qu'est-ce que je vois pas ? Eh bien, même dans le témoin, l'agriculteur avait mis des pommes de terre. Eh bien, il a eu un rendement extraordinaire avec ses pommes de terre. Et on a compris à ce moment-là qu'il y avait énormément de possibilités et qu'on peut essayer beaucoup de choses.
Bonjour, Jules Bayala.
Bonjour.
Vous êtes chercheur principal à l'ICRAF. Alors, chercheur principal, ça veut dire que vous êtes au top. Hein. L'ICRAF, c'est le Centre international pour la recherche en agroforesterie et vous travaillez au Mali. Alors, quelle est l'ampleur de l'utilisation de cette technique, l'agroforesterie, dans le monde ?
Il faut dire que l'arbre est demeuré invisible pour beaucoup de politiciens dans les champs et dans les statistiques agricoles. Et malgré cela, quand on prend les terres agricoles dans le monde, 40% des terres ont eu un taux de couverture végétale de 10%, ce qui correspond à la définition de forêt de la FAO. Ça veut dire que c'est un chiffre assez énorme au niveau mondial. Au niveau des pays comme des zones comme le Sahel, on a 25 millions d'hectares qui sont couverts par les parcs agroforestiers qui ont un système traditionnel d'agroforesterie connu et géré par les producteurs de cette zone qui est difficile sur le plan climatique, mais ça relève de la sagesse de ces personnes qui connaissent leur milieu.
Oui, c'est une culture traditionnelle. 25 millions d'hectares, ça représente quoi en fait ?
25 millions d'hectares, c'est pour dire que c'est pratiquement tous les systèmes de culture du Sahel qui sont sous cette forme en réalité. Parce que si vous connaissez cette zone, il n'y a pas de champ nu. Il n'y a pas de champ où il n'y a pas de pied d'arbre à l'intérieur. Ce qui peut varier, c'est la composition des cultures, la densité des arbres et leur composition. Mais vous aurez toujours des arbres dans les champs, même dans les zones où on a mis les cultures de rente comme le coton et où le réflexe était de dire il faut tout dessoucher et produire seulement du coton. Même dans ces espaces, il y a toujours des arbres.
Parce qu'il y a cette connaissance traditionnel que les arbres dans les champs, c'est bon pour la culture globalement.
Exactement, parce que c'est un milieu tellement fragile que dès que vous enlevez la couverture végétale, ce à quoi vous assistez, c'est l'amplification de phénomènes d'érosion. Et qui dit phénomène d'érosion, vous perdez rapidement votre horizon A, qui est l'horizon où il y a la fertilité du sol. Et donc vos terres rapidement se dégradent et vos rendements aussi chutent. Les producteurs sont très sages, ils observent, ils ne documentent pas des choses de façon écrite comme nous le faisons, mais ils savent quel est l'intérêt de ces arbres-là dans le système.
Et puis il n'y a pas beaucoup de mécanisation aussi, donc ça permet de laisser les arbres. C'est l'une des raisons pour lesquelles les arbres ont été massivement enlevés dans les pays occidentaux.
Oui, en partie, mais comme je dis, même dans les zones cotonnières où, par exemple, on a des tracteurs et des charrues, les arbres sont toujours gardés. Donc, il faut dire que la pratique a résisté au conseil technique des agronomes, parce que simplement, c'est ça, le système dans cette zone-là.
Alors justement, vous parlez du sol. Bonjour Rémi Cardinal. Vous êtes chercheur en sciences du sol et en agronomie au CIRAD. Vous êtes basé au Zimbabwe, où vous étudiez l'impact de cette technique sur les sols. Nous allons y revenir. Mais tout d'abord, l'agroforesterie est aussi très utilisée en Afrique australe, du Kenya à l'Afrique du Sud.
Oui, donc comme Gilles Bayeret vient de l'expliquer, on a à peu près des systèmes équivalents. C'est pas exactement les mêmes essences d'arbres qui sont présentes, mais l'arbre est présent partout, que ce soit sous la forme de haies, sous la forme de forêts pâturées. On a les miombo, c'est la forêt sèche naturelle que les animaux utilisent pour se nourrir. Et de façon, on a des parcours communaux en fait, donc les animaux vont pâturer dedans. Et puis on a des systèmes aussi de fédarbia ou d'autres essences qui permettent d'améliorer la fertilité des sols ou qui produisent des fruits ou d'autres bénéfices pour les agriculteurs.
Alors pour vous et pour tous les gens autour de cette table, c'est logique que ça améliore la fertilité des sols, mais pour les auditeurs, c'est pas forcément évident de faire le lien entre un arbre et la fertilité des sols. Alors expliquez-nous ce qui se passe.
Alors déjà, je voudrais rappeler l'importance des sols au niveau global. Donc si on regarde le carbone qui est contenu dans les sols au niveau global, c'est 3 fois plus de carbone que ce qu'on trouve dans l'atmosphère. Donc ça veut dire qu'une faible variation des stocks de carbone des sols a un impact énorme sur le changement climatique. Et en fait, depuis la révolution industrielle, on estime qu'on a perdu à peu près 80 milliards de tonnes de carbone dues à des pratiques agricoles non adaptées. Et donc l'enjeu maintenant, c'est de transformer les sols en puits de carbone, au lieu que ce soit des sources nettes de carbone. Et donc l'agroforesterie est une des pratiques qui permettent de faire ça.
Mais là, vous n'avez pas répondu à ma question sur en quoi mettre un arbre au milieu d'un champ accroît la fertilité des sols.
En fait, les arbres, comme n'importe quelle plante, via la photosynthèse, sont capables d'assimiler le dioxyde de carbone de l'atmosphère pour leur croissance, produire de la biomasse. Et ce carbone est ensuite restitué au sol via la chute des feuilles, via la mortalité des racines. Et donc c'est tout ce cycle qui permet d'augmenter le stock de carbone et donc la fertilité des sols.
Merci d'avoir répondu à ma question. Bonjour Sarah Toumi.
Bonjour.
Vous avez fondé Acacia pour tous en 2012 dans le village de votre famille en Tunisie, avec la ferme intention justement de développer l'agroforesterie dans un pays où elle est relativement peu pratiquée. Vous avez dû faire face à des freins culturels. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'importer cette pratique ?
Alors en fait, au départ, c'était pas du tout voulu. Je l'ai fait un peu par logique. Logique de terrain, à savoir que mes grands-parents donc, sont des agriculteurs qui font de l'olive. Et donc les oliviers en Tunisie, traditionnellement, en fait, sont des systèmes agroforestiers. C'est-à-dire qu'on a l'olive, des oliviers tous les 25 mètres. Et entre les oliviers, il y a 30 ans, il y a 40 ans, et même il y a 2000 ans au temps des Romains, on avait des amandes, du maraîchage, du blé, tout ce dont les gens avaient besoin. Et comme on a un stress hydrique très important en Tunisie aujourd'hui, une baisse des précipitations, donc de moins en moins de pluie, et dans le sol, des nappes qui ont diminué, donc on est passé de 10 à 20 mètres pour trouver de l'eau, à aujourd'hui plus de 100 mètres, voire parfois 200 mètres, sur des nappes qui sont de l'eau dite saumâtre, donc salée, donc qui ne permet plus de cultiver. En fait, mes grands-parents se sont retrouvés face, et donc toute cette communauté s'est retrouvée face à un défi. Comment on fait pour continuer à vivre d'un métier, l'agriculture, avec des contraintes climatiques, un réchauffement, donc des étés beaucoup plus secs, des pluies qui diminuent, et surtout pas d'eau dans le sol. Et c'est là que je me suis posé la question de dire, mais comment on fait pour déjà aider ma famille? Et c'est là que j'ai entendu parler. En Afrique de l'Ouest, il y avait eu un grand mouvement qui s'appelle la Grande Muraille Verte, qui a utilisé les acacias notamment pour arrêter l'avancée de la désertification. Et je me suis dit, pourquoi pas en Tunisie? Et en Tunisie, on a une dernière forêt d'acacias, l'acacia radiana, qui existe encore aujourd'hui. Donc j'ai récupéré des graines de cette forêt-là pour commencer à les planter. Et petit à petit, c'est devenu un mouvement. Ce que j'avais pas du tout prévu. Et c'est là que j'ai commencé à avoir des chercheurs, à avoir des experts pour m'accompagner en parallèle du terrain, de voir ce que les agriculteurs faisaient déjà pour en fait créer un modèle qui est adapté aux besoins des agriculteurs, mais aussi aux besoins du marché.
Et alors du coup, c'est quoi votre modèle ?
Alors c'est un modèle qui a beaucoup évolué. Au départ, on plantait juste des acacias pour faire des haies, pour protéger les champs. Aujourd'hui, on a des micro-parcelles de moins de 1000 mètres carrés. On travaille uniquement avec des femmes. Donc elles ont en fait à côté de leur maison, en général, elles ont 4 oliviers. 4 oliviers, c'est 625 mètres carrés. Au milieu de ces 4 oliviers, on plante du moringa, qui est une espèce donc, qu'on a importée, qui vient d'Inde, qui est une espèce à croissance rapide, qui a l'intérêt donc, d'augmenter la fertilité des sols, d'une part, parce qu'il capte beaucoup de carbone, et aussi pousser très rapidement. Donc, il crée une sorte de parasol qui permet, en fait, pendant les étés très chauds et très secs, de pouvoir cultiver d'autres plantes en dessous, notamment des légumes, mais aussi des plantes aromatiques et médicinales. Et donc, nous, on a créé un modèle où on mélange 8 espèces sur 1000 mètres carrés. Ça permet à une femme de générer un minimum de 1000 euros par an, et dès la première année. Donc, c'est très rapide. Et ensuite, donc, après, c'est évolutif dans le temps. Au départ, elle produit du moringa, puis ensuite la fleur d'oranger, qui commence au bout de 2 ans à produire des fleurs, puis des olives au bout de 5 ans, puis éventuellement des dattes au bout de 8 ans avec les palmiers. C'est un système qui évolue aussi en fonction du marché, parce qu'il y a une demande sur ces produits-là. Mais là, ça demande une certaine organisation, notamment en coopérative.
Et vous travaillez avec combien de femmes aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on travaille avec 82 femmes sur 2 coopératives qu'on a donc formées. Et le grand challenge, en fait, ça a été ça, c'est de créer des coopératives en Tunisie, parce que donc, dans les années fin 70, en Tunisie, il y a eu un grand mouvement coopératif qui a échoué. C'est énormément de corruption et beaucoup de dirigeants qui sont partis avec la caisse. Et donc, les agriculteurs n'avaient plus confiance. Donc, recréer ce modèle, ça a été très compliqué de redonner confiance. Et c'est pour ça aujourd'hui que... C'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais énormément d'énergie. Enfin, j'avais 24 ans, j'en ai 31 aujourd'hui. Et donc, je voulais aller très vite, très loin. Donc, j'ai travaillé avec des milliers de femmes. Mais au final, aujourd'hui, on a réduit à 82 sur des petits groupements qui marchent, qui fonctionnent entre eux, et on base vraiment toute notre énergie sur le leadership de ces femmes.
Donc c'est un laboratoire et l'idée c'est que ça se multiplie. Bonjour Régis Pelletier, vous êtes ingénieur de recherche en agroforesterie et foresterie communautaire au CIRAD. Et comme vous me l'expliquiez en préparant cette émission, on l'a entendu déjà avec nos différents intervenants, l'agroforesterie c'est pas du vent.
Oui, tout à fait, oui. Oui, je vais vous raconter cette petite anecdote. Lorsque j'ai créé le programme agroforesterie dans les années 88, je suis allé sur l'île de La Réunion et il y avait là un vieux forestier tout à fait honorable qui faisait un très bon travail en forêt domaniale. Et quand j'arrivais pour le convaincre qu'il fallait travailler un peu plus avec les paysans. Et alors, bon, je sentais qu'il était un peu réticent. Et dans la voiture, là, j'ai dit, bon, mais les arbres, il y a des problèmes ici. Il dit, oui, oui. Il réfléchit un peu. Il me dit, il y a deux problèmes. Il y a le vent. Alors, je dis, le vent, c'est bon. Oui, il y a les cyclones, donc on va mettre des brise-vent. Et puis, il marque un temps d'arrêt. Puis, il me dit, mais il y a aussi les marchands de vent. Et là, tout d'un coup, j'ai reçu comme un coup de poing dans l'estomac, j'ai compris que le marchand de vin, c'était moi, c'était l'agroforesterie. Et c'est vrai que dans les années 80, ceux qui voulaient travailler avec des paysans, leur faire planter des arbres, passaient un peu pour des rigolos, parce que au lieu d'avoir des beaux arbres bien alignés, entretenus par des tracteurs, on mettait des arbres. Parfois, il y a la chèvre qui en mangeait un, le cochon qui en déracinait un autre, un gamin qui avait besoin d'un morceau pour faire un arc. Bon, et finalement, les réussites étaient moindres. Mais lorsqu'on revient 30 ans, 40 ans après, on s'aperçoit que la belle forêt bien alignée, elle a brûlé, parce que tout le monde s'en fichait. Tandis que les 3 arbres qui étaient plantés derrière la maison du gardien, ils sont toujours là, ils sont toujours entretenus, ils sont intégrés à un système de culture.
Et l'agroforesterie, aujourd'hui, c'est moins considéré comme du vent ?
Ah, non, tout à fait. Ce congrès en est la preuve est évidente. Et plusieurs personnes qui nous avaient traité un peu de rigolos à l'époque sont là, qui font des beaux discours. Donc, mais tout est bien qui finit bien.
On ne donnera pas de nom, mais les mentalités changent. C'est ça la bonne nouvelle. Alors, nous sommes donc avec nos invités au Quorum à Montpellier, au 4e congrès mondial d'agroforesterie. Nous allons vous prouver dans cette émission donc, que l'agroforesterie, ce n'est pas du vent. Restez sur RFI, une petite pause musicale et nous vous dirons tout sur les vertus de cette technique agricole.
Yen embolo e bukinde bwemba wo masinga na wa woko 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 lende wa
quoi?
Woko woko.
Qu'est-ce qu'il y a comme un?
Woko woko. Lendewa.
Nimana siben. Tungu da kapa mbola wa. Udo onda nyemba bobe. Ibola njomasi. Eni yende mamungo kabudu. Yene bolo ege bukinde bwemba bo. DJ Amunjani, e se le bambo bate te di banono. O ma bane nyolo nyolo che, dan lo ma tingi na balato o di banono. Bakuto e de guona wo di banono. Danse nono. Di banono. Danse nono. Bale de guona wo di banono. Danse nono. Di banono. Danse nono. Bakuko de bande ko na yamakuto. Sama e un de tra kaji. Un de tra kaji. Se pa de kani banana wa.
Woko woko.
Ah oh.
Woko woko.
Ah mi amor.
Woko woko.
A tu peti, ya mi ne nambo,
tu
va vino vane se pangambo.
Woko woko, lende.
Aye ye,
woko.
A tu me nambo ba, si na mani mete ni ma tu pe na woba.
Woko.
Tani bangwa na zo,
YouTube
na ni pa na fasamba.
Woko woko, lende.
Notre studio est installé au Corum, le palais des congrès au cœur de Montpellier, dans le sud de la France, à l'occasion du 4e congrès mondial d'agroforesterie qui réunit cette semaine 1200 chercheurs, agriculteurs, représentants d'ONG ou décideurs politiques d'une centaine de pays. Nous l'avons évoqué, dans une région comme le Sahel où il ne pleut que 3 mois par an, l'agroforesterie est une aubaine pour améliorer la fertilité des sols, protéger les cultures contre les ravageurs et faciliter l'adaptation aux conséquences des changements climatiques, comme le démontre ce reportage de Caroline Dangléan et de Vincent Bonneau dans le centre du Sénégal. Ils ont rendez-vous avec Olivier Roupsart qui est climatologue au CIRAD.
Tchekfal est agriculteur à Djadjan, un village au centre du Sénégal. En cette journée de septembre, il prend soin de ses terres car la récolte du mil approche.
On attend la fin des pluies pour récolter le mil. On couche les épis, on récolte, et puis on rapporte le mil chez nous. Cette période coïncide aussi avec la maturité de l'arachide.
Dans cette région sahélienne, la pluie ne tombe que 3 mois par an. 3 mois pour cultiver de quoi nourrir sa famille toute l'année.
Cette année, nous avons eu des difficultés climatiques. Il n'y a pas longtemps, je me disais que le mil n'allait pas pousser. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien.
Au Sahel, le changement climatique rend la saison humide de plus en plus aléatoire. Mais un autre phénomène menace la sécurité alimentaire de ces populations. Les sols sont de moins en moins fertiles.
Ici, on peut noter une forte croissance démographique de la population. Et cette forte croissance de la population donc, a des impacts sur l'environnement. Et là, je peux citer la dégradation des terres qui est liée au fait qu'il n'y a plus certaines pratiques comme la jachère, ce qui entraîne une baisse de la fertilité des sols et ça a donc des conséquences négatives sur les récoltes.
L'agroforesterie est une solution pour lutter contre les effets du changement climatique et restaurer la fertilité des sols. C'est une conviction partagée par les agronomes et par la plupart des agriculteurs.
Pour moi, l'agroforesterie fait partie des quelques techniques incontournables pour affronter les questions du changement climatique, que ce soit les questions de mitigation ou les questions d'adaptation.
Les systèmes agroforestiers offrent de nombreux bénéfices, certains connus depuis toujours, d'autres révélés récemment par la science.
La première chose, c'est que ça permet de piéger du carbone dans des zones. Et effectivement, il y a beaucoup plus de carbone dans la biomasse d'un arbre que dans la biomasse de céréales en général. L'autre chose, c'est un effet de restitution de vapeur. Et on s'est aperçu d'un phénomène dont avaient parlé nos ancêtres, mais qu'ils n'étaient pas capables de démontrer à l'époque. On s'est aperçu que les forêts étaient capables de propager les pluies.
Arbre clé de la région, le Federbia albida. Cet acacia améliore la fertilité du sol, fournit du bois aux populations et du fourrage au bétail pendant la saison sèche.
Il a cette caractéristique extraordinaire, c'est qu'il est à phénologie inversée. C'est-à-dire qu'en fait, il fait ses feuilles en saison sèche, juste au moment où les éleveurs ont besoin de fourrage.
Mais ce n'est pas tout. Le Federbia est capable d'absorber l'azote de l'air et de le restituer aux cultures.
Et puis, alors, il y a autre chose qui est cachée, c'est qu'il a des systèmes racinaires très profonds. Il va utiliser des ressources dont les cultures n'ont pas besoin. Et mieux que ça, il est probable qu'il soit capable de remonter ses ressources d'eau et de minéraux vers la surface.
Un autre bénéfice rendu par les arbres vient d'être révélé par des scientifiques du CIRAD avec ses partenaires. La présence d'arbres dans un champ limite les attaques d'une chenille, la mineuse de l'épi de mil.
On est dans des milieux qui sont complètement exempts de pesticides. On a une biodiversité qui est importante et qui va participer à la régulation des ravageurs.
Les dégâts causés par la chenille sont bien plus importants sur certaines parcelles que sur d'autres. Pour comprendre cette variabilité, les chercheurs ont croisé des données écologiques avec l'analyse du paysage. Thierry Brévaux et son doctorant en écologie, Armand Dousseau, ont passé en revue les prédateurs de la chenille, oiseaux, chauves-souris et insectes.
Ces espèces de chauves-souris, ils consomment les papillons, c'est-à-dire donc dans ce cas, ils vont éviter la ponte, contrairement aux oiseaux ou qui vont consommer des larves au moment où il y a déjà des galeries sous les épis.
De son côté, Valérie Sauty a décrit les différents éléments du paysage à partir d'images satellites haute résolution.
On a observé que là où on avait une densité d'arbres importante, on avait aussi une régulation naturelle importante. Alors pourquoi ? C'est que ces arbres joueraient un rôle refuge aux ennemis naturels.
L'agroforesterie permet donc aussi de protéger naturellement les cultures contre les ravageurs. Cette découverte est un argument supplémentaire pour inciter les agriculteurs à conserver des arbres dans leurs champs.
Depuis le passage des scientifiques, nous avons eu une prise de conscience sur la mineuse du mil. Là, par exemple, je regardais justement s'il y avait des larves ou pas.
L'agroforesterie cumule de nombreux avantages, stockage de carbone, adaptation au changement climatique, maintien de la fertilité des sols, protection des cultures.
C'est une solution qui est un modèle d'adaptation pour les pays tropicaux, mais qu'on peut tout à fait transplanter dans les pays tempérés. C'est une mémoire que nous avions dans nos pays, par exemple l'agroforesterie des bocages. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a perdu et qu'on a hâte de retrouver.
Piéger du carbone, propager les pluies, fertiliser les sols, lutter contre les ravageurs et aider à s'adapter au changement climatique. L'agroforesterie, Christian Duprat, aurait donc toutes les vertus ?
Oui, il faut rester raisonnable. Ce n'est pas la panacée, ça ne va pas tout sauver. Mais effectivement, c'est un outil extrêmement efficace et je peux réagir. Par exemple, là, on parlait des chauves-souris, mais nous, on a la même chose. Les chauves-souris, dans les vignobles du sud de la France, elles n'y venaient pas parce qu'il n'y a pas d'éco-radar. Il fallait qu'il y ait des arbres. Et dès qu'on remet les arbres dans les parcelles, les chauves-souris reviennent dans les parcelles de vignes. Elles mangent, par exemple, les cicadelles, qui sont le vecteur d'une maladie catastrophique de la vigne, la flavescence dorée. Donc on a les mêmes mécanismes en action. Et la présence d'arbres permet effectivement, probablement, de contrôler mieux. Mais chaque ravageur est différent et il est possible qu'un jour, il y ait des maladies plus importantes en agroforesterie que sans arbres. Il ne faut pas caricaturer et dire que tout est blanc, tout est noir. Nous sommes là pour faire de la science et évaluer objectivement l'intérêt de ces systèmes.
Oui, et puis l'objectif de ce congrès, c'est aussi de donner de l'ampleur à cette technique, parce qu'aujourd'hui, par exemple, en Europe, elle est quand même encore très peu utilisée.
Tout à fait. L'Europe était complètement agroforestière jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Elle n'est ce que nous voyons aujourd'hui que depuis 50 ans, depuis 80 ans. Et peut-être que dans l'histoire de l'agriculture, l'agriculture industrielle, celle qu'on connaît actuellement, n'aura été qu'une parenthèse. Il faut bien se rappeler qu'avant 1920, toute l'agriculture était biologique en Europe. Et nous allons peut-être y retourner. Une fois que le pétrole sera épuisé, on passera probablement à une autre agriculture qui sera différente de celle du Moyen-Âge, puisqu'on aura des variétés améliorées, on aura des techniques améliorées, on aura toujours de la mécanisation, mais avec des techniques plus agroécologiques, et les arbres font partie de la panoplie.
Enfin, il y a un peu de délai, hein, quand on voit la difficulté, oui. Juste, par exemple, pour enlever le glyphosate, on se dit que la fin de l'agriculture
même,
industrielle, ce n'est pas pour tout de suite.
Même pour planter des arbres, vous voyez, ça fait quand même 5-6 ans qu'on incite les agriculteurs français à planter. On a 2, 3, 4 000 hectares plantés chaque année, mais on a un objectif, on a un plan national de développement de l'agroforesterie en France. L'objectif, c'est 1 million d'hectares en 2030. Il va falloir qu'on accélère. Mais voilà, il faut que les choses se mettent en place.
Jules Bayala, on entendait dans le reportage toutes les vertus de l'agroforesterie au Sénégal. C'est vrai pour l'ensemble des pays du Sahel ?
Bien sûr. Ce qui se passe au Sénégal, c'est à peu près la même chose qui se passe dans les autres pays du Sahel. Encore une fois, la seule différence, c'est le type d'espèce qu'on peut trouver dans les champs. La zone dont on parle au Sénégal est dominée essentiellement par les fédérbias. Mais si vous allez dans d'autres zones un peu plus humides, les champs seront plus dominés, par exemple, par le karité, qui est une autre espèce assez dominante dans la région.
Mais comme le disait Christian Duprat, la recherche a beaucoup avancé ces dernières années. Au-delà des pratiques traditionnelles, il faut peut-être accompagner les agriculteurs dans ces pays pour augmenter les rendements, faire des associations qui soient un petit peu plus malines que simplement les habitudes.
C'est exactement ce que la recherche fait. La recherche essaie de comprendre les processus qui se passent dans les interactions entre les cultures et les arbres, et même entre les cultures, les arbres et les animaux, parce qu'il ne faut pas oublier cette composante de l'agroforesterie, particulièrement dans les pays, dans les zones comme le Sahel, où l'animal est partie intégrante du système de production.
Et pourquoi c'est essentiel, l'animal ?
Il est essentiel parce qu'il fait partie, est un élément du cycle des éléments nutritifs, parce qu'on peut alimenter les animaux avec, comme on l'a dit au Sénégal, le fourrage venant des arbres et le fumier qui est issu des déjections des animaux va être recyclé dans les champs pour fertiliser les cultures. Donc c'est un système intégré et c'est le rôle de la recherche de faire en sorte que tous ces éléments-là s'intègrent et optimisent la production, non seulement l'optimisent, mais la rendent moins vulnérable à la variabilité climatique.
Alors justement, Régis Pelletier, on parle de variabilité climatique, de changement climatique. On se dit que planter des arbres, c'est formidable, ça capte du carbone, hein, comme nous le rappelait Rémi Cardanel. Mais en même temps, est-ce que du coup l'agroforesterie, c'est un bon moyen de lutter contre la déforestation ?
Je vais peut-être être un peu nuancé, au risque de passer pour un peu pour le méchant.
Non mais c'est bon, le président du comité scientifique a dit que tout n'était pas forcément vertueux dans l'agroforesterie, donc vous pouvez vous lâcher.
Allons-y. Non, il est clair que théoriquement, l'agroforesterie, c'est un moyen idéal pour lutter contre la déforestation. Pour deux raisons principales. Premièrement, ça fournit les produits que fournissaient les... En partie, mais ça fournit les produits que fournissaient les forêts. Alors, par exemple, le bois énergie, le bois de construction, le bois d'œuvre, le petit gibier, qui est très important pour la nutrition au niveau protéinique. Dans certains pays, au Congo, les chenilles, qui sont la principale source de protéines et de matières grasses, les chenilles comestibles. Bon, des fibres pour les vanneries, pour faire des paniers, des cordes, pour puiser l'eau, pour attacher un âne, etc.
Mais ça, ce sont tous les services que rendent les arbres. Mais
voilà.
c'est pas ça qui lutte contre la déforestation, parce qu'on sait, je me permets de prolonger un peu ma question, c'est vrai qu'on sait que l'agriculture est une des causes massives de déforestation. On défriche les forêts pour cultiver les terres.
Et donc j'y viens. Non, mais il y a deux points. Il y a d'une part soulager un peu la pression sur les forêts, qui existe encore. Donc, faire en sorte qu'une partie des produits qui venaient des forêts viennent maintenant de l'agroforesterie. au Nord Cameroun, un pays tout pourri, une zone où on a développé, j'y viendrai tout à l'heure, le Federbia. Une femme me disait, autrefois, je devais faire 20 km pour aller chercher du bois de feu dans des forêts qui sont d'ailleurs au Tchad, de l'autre côté de la frontière, avec tous les risques que ça présente. Et elle m'a dit une très belle phrase, maintenant la forêt est venue sur ma tête. Donc, maintenant, les fagots là, qu'elle transportait avec un enfant sur le dos, un fagot de 20-25 kilos, il était au-dessus. C'était formidable. Donc, voilà, des services qui étaient rendus par les forêts sont rendus par l'agroforesterie. Mais d'un autre côté, un autre point important, c'est que dans les zones où il y a encore de l'agriculture itinérante sur brûlis, qui quand même concerne plus d'un milliard de personnes sur la Terre, on défriche la forêt, on met le feu au bois, aux branches, on cultive. Une fois qu'on a récolté, ça repousse, c'est la jachère. La première fois, c'est 10 ans, la deuxième fois, 5 ans, puis 3 ans. Et puis le sol est épuisé. Et on continue à avancer, on va défricher plus loin. Et ça, c'est responsable de 14 millions d'hectares défrichés par an. 14 fois le massif le plus grand d'Europe. Les Landes de Gascogne, imaginez. Eh bien, c'est vrai que si l'agroforesterie permet aux agriculteurs de vivre de façon durable pour toutes les raisons qui ont été évoquées au même endroit, les gens auront moins besoin d'aller défricher. Mais je dois dire, ça, c'est un peu la théorie, et peut-être on y viendra plus tard, dans la réalité.
Non, allons-y tout de suite.
Bon, mais allons-y.
Dans la réalité, ce n'est pas ce qui se
allons-y.
Passe.
Dans la réalité, en tout cas, en particulier dans les zones de forêt dense, mais c'est vrai aussi dans les forêts sèches, les miombos, etc., les agriculteurs, à partir du moment où ils ont un accès libre à des zones forestières, c'est plus facile d'aller récolter souvent dans les forêts. C'est des produits souvent qui sont de meilleure qualité. Par exemple, les agriculteurs nous disent le bois que vous plantez, il est léger, tandis qu'on avait des bois lourds dans les forêts qui donnent du meilleur charbon. Le gibier était de meilleur goût que la viande d'élevage. Bon, c'est plus facile d'aller récolter parfois. Et puis alors, quelque chose de beaucoup plus important, c'est que c'est énormément plus facile de cultiver après le feu que dans un système agroforestier. Et moi, je le fais vivre à mes étudiants lorsque je vais en Afrique enseigner. Je leur fais sarcler, comme je ne suis pas un Pol Pot, mais je les fais sarcler. Alors, c'est ces jeunes qui viennent souvent de milieux aisés, des villes, etc. Pour eux, c'est la première fois sarcler un champ de manioc, etc., qui se rendent compte physiquement que c'est difficile, que c'est un travail très dur. Et c'est vrai que c'est une fois qu'on a coupé une forêt, on brûle, les escargots sont morts, les semences de mauvaises herbes sont mortes, on a un pH qui est neutre. N'importe qui, moi-même, je peux venir semer du maïs, bouturer du manioc. Tandis que dans une agroforêt, c'est très complexe, il y a des interactions à gérer, il faut gérer l'ombre,
le combat
les concurrences.
Est difficile.
Voilà. Donc, dans la réalité, lorsque l'État laisse volontairement ou par faiblesse, laisse les gens défricher la forêt, il est plus facile de défricher. Et dernier point, c'est que ça permet aux gens de se constituer un capital foncier. C'est-à-dire, dans un pays où il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de retraite, tout ça, c'est assuré par qui ? Par les enfants. Et donc, les familles, qui sont nombreuses, ils ont 10 enfants, ils vont acquérir des terres par ce qu'on appelle le droit de hache, en défrichant, et ils vont pouvoir laisser 10, 20 hectares à leurs enfants.
Oui, c'est là où on voit que quand même il y a une rivalité un peu inégale entre le fait de défricher la forêt et le fait de faire de l'agroforesterie. Mais il y a des atouts, hein, Rémy Cardinal. L'agroforesterie est prise en compte depuis très peu de temps dans les rapports du GIEC, le groupe intergouvernemental des experts sur le climat. Preuve que c'est une technique à laquelle de plus en plus de monde s'intéresse.
Effectivement, c'est tout récent. Ça date de ce mois-ci, du mois de mai. L'agroforesterie est maintenant prise en compte dans les recommandations du GIEC pour les comptabilités carbone pour les États. Donc c'était pas du tout le cas avant. Donc la comptabilité carbone maintenant inclut la diversité des systèmes agroforestiers par grande région du monde et par grand type de climat. Et on prend en compte à la fois la biomasse aérienne des arbres, le carbone dans les branches, les troncs, mais aussi les racines. Et ce qui est tout nouveau, c'est qu'on a aussi le carbone du sol. Et donc ça, à mon avis, ça va encourager les États à développer l'agroforesterie, puisque maintenant, ces projets d'agroforesterie vont pouvoir être comptabilisés dans les efforts de réduction de gaz à effet de serre des États.
Voilà une bonne nouvelle. Sarah Toumi, comment est-ce que vous réagissez aux propos de Jules Bayala et de Régis Pelletier qui disent voilà, l'agroforesterie, ça progresse, mais il y a besoin de davantage de technologies, ou c'est difficile pour les plus pauvres d'aller vers cette technique qui est quand même un peu complexe? Comment ça se passe en Tunisie?
Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, nous, justement, notre rôle donc, à Casa pour tous en tant qu'entreprise sociale, c'est de faire redescendre les savoirs scientifiques vers ces agriculteurs, vulgariser tout ce savoir qui existe aujourd'hui, mais qui a du mal à redescendre. Et puis aussi au niveau technologique. Aujourd'hui, on parle de, les chercheurs utilisent de l'imagerie satellite pour voir l'impact de ces projets. Nous, ça nous intéresserait de pouvoir les utiliser aussi. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui sont compliquées pour y avoir accès, qui sont encore dans le domaine de la recherche et que nous, dont nous, on a besoin. Ou bien au niveau, moi, je parlais de tout ce domaine de la tech for good. Il y avait la semaine dernière à Paris le salon VivaTech de la technologie. Et malheureusement, on n'a pas vu beaucoup de projets sur les forêts et l'agriculture, alors que justement, toutes ces technologies qui existent, il y avait par exemple un stand d'une grosse entreprise qui a créé des caméras pour protéger dans les girafes dans les savanes des braconneurs avec un système d'intelligence artificielle. C'est des technologies qui pourraient tout à fait être appliquées pour lutter contre la déforestation, pour lutter contre justement la coupe illégale des arbres, pour protéger les forêts qui sont en train de disparaître en Afrique, mais aussi pour des acteurs comme nous, pouvoir suivre l'impact de notre travail, non seulement au niveau économique, parce que nous, on est avant tout, donc on crée des filières agricoles, mais agroécologiques, mais aussi environnementales, de prouver qu'en utilisant l'agroécologie ou l'agroforesterie, on économise de l'eau, on capture du carbone, on restaure les sols, et finalement, on a une plus-value par rapport à l'agriculture classique.
Christian Duprat, qu'est-ce que vous attendez de ce congrès?
Déjà une reconnaissance politique.
Alors, on va quand même préciser que ce congrès est sous le haut patronage d'Emmanuel Macron, mais il n'y avait pas un seul ministre ni secrétaire d'État à l'ouverture du congrès.
C'était une déception, je le reconnais. Et je pense que le mouvement est beaucoup plus large que cela. Si vous voulez, il y a eu un abandon des pratiques d'agroforesterie en Europe, notamment parce que la politique agricole commune n'était pas faite pour ça. Il y a 20 ans, vous mettiez 3 arbres dans une parcelle, on vous enlevait vos prime pack. Et donc ça, c'était absolument impensable pour un agriculteur. Aujourd'hui, tout a changé. L'Europe soutient l'agroforesterie. Les États européens peuvent développer l'agroforesterie. Il n'y a plus de pénalisation des agriculteurs qui la pratiquent en respectant certaines règles. Et donc, la carte est dans le jeu des États. C'est les États qui, maintenant, peuvent la développer et ils ne peuvent plus dire c'est à cause de l'Europe qu'on ne peut pas le faire. Et donc, dans ce type de congrès, nous avons demain une session qui est dédiée à ça. Quelle feuille de route pour l'agroforesterie dans les années qui viennent? On a des projets, on a une réforme de la PAC qui vient. Pour l'Europe, on a des améliorations considérables. Beaucoup de pays en parlent. J'entendais que hier à la radio, le Premier ministre tchèque n'a parlé que d'agroforesterie dans son pays. Vous voyez, les choses évoluent très fortement et je pense que le sens de l'histoire est là. Donc, on y va.
Jules Bayala, le sens de l'histoire est là aussi en Afrique de l'Ouest, au Mali par exemple, où vous travaillez, où vous venez du Burkina Faso. Est-ce que dans ces pays, il y a une volonté politique pour promouvoir l'agroforesterie au milieu de tous les autres enjeux bien complexes de ces pays?
Oui, bien sûr. Comme l'a dit tantôt Cardinal, la plupart des pays africains ont mentionné l'agroforesterie dans leur plan sur la contribution nationale déterminée.
Sur le climat.
Sur le climat. Ça veut dire que ça va être quelque chose qui va être pris en charge.
Bientôt.
Bientôt. Non, pas bientôt, parce que ça est déjà dans leur plan. Ils ont des plans nationaux. Il suffit simplement maintenant de développer des projets pour soutenir cela. Parce que quand ils rendent compte, au moment de faire le rapport, les rapports pour le moment sont vides. Parce qu'il n'y a pas de possibilité, effectivement, de contribuer à quelque chose. Et donc, l'agroforesterie a vraiment un avenir. Et de toutes les façons, c'est une question de survie pour le Sahel. Vous enlevez les arbres, votre sol disparaît et vous n'avez pas de production. Donc, il faut être simplement sage. Voilà.
Oui, alors être sage, c'est aussi réaliser, Régis Pelletier, qu'un arbre, ça coûte cher, que tout le monde n'a pas les moyens de l'acheter, qu'en plus, quand on plante un arbre sur un terrain qui ne nous appartient pas, l'arbre ne nous appartient pas forcément. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux complexes, finalement, derrière cette logique d'agroforesterie. Et donc, vous dites qu'il faut que les États accompagnent les agriculteurs dans la plantation des arbres par le biais, par exemple, de subventions.
Oui, tout à fait. En fait, il y a eu de multiples actions par des ONG, comme celle dont on nous parle en Tunisie, par des projets, des grands projets, Banque mondiale, AFD, etc. Mais il n'y a pas assez d'appui continu. Il y a un appui continu, par exemple au Niger, régulièrement la radio incite les gens à conserver des arbres dans leur champ par régénération naturelle assistée, etc. Mais lorsqu'on a affaire à des gens qui sont à l'état de survie, qui doivent chaque année, suivant la pluie ou pas la pluie, on ne sait pas si le mil qui est dans le grenier va permettre de finir l'année. Voilà. Donc ces gens-là, parfois, ils sont obligés de couper du bois pour vendre un peu de charbon parce qu'il n'y a pas assez de mil dans le grenier pour avoir un peu d'argent. Ces gens-là, si on ne les aide pas de façon régulière, ils ne vont pas garder les arbres. La réalité est là. J'ai un thésar, M. Boubacar, là, actuellement au Niger, qui a fait des inventaires autour de Niamey. Et il y a des arbres qui ont été conservés il y a 20 ans parce qu'il y avait un projet, mais il n'y a pas de jeunes arbres qui ont été conservés récemment. Donc, mon idée, enfin, ce n'est pas mon idée, c'est une idée de plusieurs personnes, c'est de dire qu'il faut trouver des mécanismes durables. Alors, par exemple, au Nord Cameroun, avec la Sodécoton, la société qui s'occupe de gérer le coton, on a mis un système au point. La même société qui, à une époque, comme le disait M. Bayala, avait encouragé les gens à défricher. Et maintenant, cette société les encourage à reboiser, à garder des fédérbias et d'autres arbres, à condition qu'ils soient alignés pour qu'on puisse labourer entre eux. Et il y a une subvention, c'est pas grand-chose, c'est 100 francs CFA, quelques dizaines de centimes d'euros, qui est versée à chaque agriculteur qui garde un arbre. 50 francs la première année, 25 la deuxième, 25 la troisième s'il l'a conservé. Et donc, à partir de là, c'est plusieurs millions d'arbres qui ont été conservés en 30 ans. Le paysage a changé. Si on regarde sur Google Earth, on voit que dans la partie camerounaise, il y a beaucoup plus d'arbres que dans la partie tchadienne, qui est pourtant juste à côté. Et ça, c'est prélevé sur les bénéfices de la vente du coton par les associations villageoises. De la même façon au Niger, mais c'est encore embryonnaire, sur la caisse qui est destinée à vendre le bois énergie, Il y a des taxes, et une partie de ces taxes va à des actions sociales, les vaccinations contre la rougeole, vaccinations, etc., développement, mosquée, église, ce qu'on veut. Et il y a une partie qui va sur des taxes pour conserver des arbres dans les champs. Et ça, c'est des choses durables, parce que ça peut durer 10 ans, 100 ans. Et là, on arrive à... Alors, il y a des gens qui sont contre les subventions, mais honnêtement, l'expérience montre que c'est indispensable. Et en Europe, rien ne se fait sans subventions.
Christian Duprat.
Oui, ben je réagis parce qu'il y a un pays en Europe qui a un système incroyable, c'est la Suisse. En Suisse, tous les arbres hors de la forêt sont répertoriés et les agriculteurs sont encouragés à les garder et sont pénalisés s'ils les enlèvent. Donc vous voyez que c'est possible aussi, même chez nous.
Et c'est là où on voit qu'en effet, il faut une prise en compte de la part des politiques de ce sujet. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et l'installation de ce studio et à vous pour votre fidélité. Demain, nous serons toujours à Montpellier au 4e congrès mondial d'agroforesterie avec d'autres invités et nous verrons comment faire changer cette technique d'échelle. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres et à demain, même planète, même heure.